Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la baisse de l'impôt sur le revenu, les choses se précisent. Le ministre de l'économie donne des chiffres.
350 euros de gain moyen pour la première tranche, 180 euros de gain moyen pour la deuxième tranche.
Les deux premières tranches, donc, les contribuables les plus modestes sont visés. Détail avec Delphine Simon. Les mesures en réponse aux gilets jaunes coûteront en tout 17 milliards, dit Bruno Le Maire. Autre réponse à cette crise, l'assouplissement des 80 km/h. Les choses peuvent aller vite, dit le gouvernement. Vite, vraiment. Et comment? Nous verrons cela avec Mathilde Dehimy. Avant ces détails, hommage à un homme de 98 ans qui vient de mourir, Bernard Dargols. Ce Français avait débarqué en Normandie sous l'uniforme des GIs. L'empereur a abdiqué, l'empereur du Japon Akihito, cérémonie hors du temps et glaciale. Ce matin, Yann Rousseau nous racontera. Dans ce journal encore, je t'aide à bricoler, tu me donnes un matelas, un réseau social pour faire du troc, échanger biens et services lancé aujourd'hui. Il s'appelle Indigo, son fondateur Stéphane de Freitas, c'est notre invité. Vers une journée nationale de sensibilisation au racisme dans les universités. En football, les demi-finales de la Ligue des Champions. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
La première demi ce soir et enfin, un peu de changement, un peu d'oxygène.
Eh oui Bruno, pas de Real Madrid, pas de Juventus de Turin. Ces deux équipes sorties par l'Ajax Amsterdam, invité surprise de ce dernier carré. Avec de très jeunes joueurs, de nouveaux visages et surtout un football séduisant et disons-le, rafraîchissant.
L'Ajax face à Tottenham, demain Barcelone-Liverpool. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France nous annonce du soleil.
Oui, soleil et douceur prédominant pour cet après-midi avec 14 à 20 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 24 degrés plus au sud, ce sera du côté de Béziers. Un large quart nord restera quand même un temps plus variable avec des nuages jusqu'au Hauts-de-France, au bassin parisien, à l'Auvergne et au Lyonnais, mais le ciel va s'éclaircir entre les Ardennes, la Lorraine et le Haut-Rhin.
Soleil et douceur, ça c'est le climat, du sang et de la boue à la Comédie Française. Le Belge Ivo Vanov met en scène Electre et Oreste, les deux tragédies de Ripide. Christophe Montenez joue Oreste.
Au début, on était « non, c'est froid et tout ». Puis en fait, quand on a le cul dedans un moment, en fait, c'est assez agréable cette régression de ce théâtre antique, de la chair, des liquides avec le sang, la boue.
C'est quoi ? Eh bien, Stéphane Capron nous dira tout à l'heure et il y aura aussi un petit peu d'illustration musicale. Vous l'entendrez le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Et comme promis, pour commencer, la voix de Bernard Dargols, cet homme qui avait 98 ans, vient de mourir le 8 juin 44. Lui, le Français, avait débarqué en uniforme de GI à Omaha Beach, Normandie. Il était parti aux États-Unis à 18 ans, il s'était engagé dans l'armée américaine après la poignée de main Hitler-Pétain. Nolwenn Lejeune, pendant de longues années, il avait très peu raconté son histoire avant de publier un livre et de se confier à vous.
En 2012, Bernard Dargols a 92 ans et celui qui s'est longtemps tu livre un récit incroyablement clair et précis sur ce matin du 8 juin 44.
J'ai fait ce débarquement au milieu d'un bombardement incroyable qui m'a résonné dans le ventre pendant je ne sais pas combien de temps, mais qui n'était pas du fait du bombardement ennemi, mais de la part des navires alliés pour nous permettre de prendre pied sur le sol français. J'avais pas revu la France depuis 6 ans. J'étais parti en civil, je reviens avec une mitraillette. Je dis toujours, si ma mère me voyait, elle s'effondrerait.
Une parole rare qu'il a longtemps gardée pour lui parce qu'il avait peur de ne pas réussir à trouver les mots justes.
Je ne pouvais pas trouver un vocabulaire assez intelligent pour décrire ce qu'on peut ressentir quand on s'embarque dans un bateau pour aller dans un pays occupé par l'ennemi. Comment expliquer ça ?
Avec humour, il raconte aussi les préoccupations de ses copains GIs de l'époque.
Il y avait la question inévitable, si toutes les Parisiennes étaient jolies, ça va sans dire. Et des questions un peu rigolotes. L'Américain boit beaucoup de lait. Si le lait est homogénéisé, ça, il voulait savoir.
En 2014, Bernard Dargols était revenu au mémorial de Caen. Sa parole rare et précieuse s'éteint à la veille des commémorations du 75e anniversaire du débarquement.
Et la Jeep dans laquelle il avait fait ses premiers tours de roue en France s'appelait La Bastille. Ça ne s'invente pas. L'agence France Presse rappelle encore qu'après la guerre, il avait repris la boutique de machines à coudre de son père.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et petit à petit, les réponses du gouvernement aux gilets jaunes se précisent. La baisse de l'impôt sur le revenu, entrée en vigueur en janvier prochain via le prélèvement à la source. Alors de combien l'impôt baissera-t-il et l'impôt de qui ? Eh bien Delphine Simon, le ministre de l'économie, a donné des précisions ce matin.
Oui, premier concerné, les 12 millions de foyers imposés à 14%, ceux qui gagnent entre 9 800 et 27 000 euros. Leur impôt baisserait en moyenne de 350 euros. Pour y arriver, arrivée, Bercy entend jouer à la fois sur le taux d'imposition de cette première tranche, mais aussi sur certains effets de seuil. L'impôt augmenterait moins nettement pour ceux qui commencent à le payer. L'idée, c'est de toucher les classes moyennes modestes, explique Bruno Le Maire.
Je vois dans ma circonscription ce que c'est que de vivre avec 1800, 2000 euros par mois quand on habite dans l'Eure, qu'on doit prendre son véhicule, que le prix de l'essence a augmenté. C'est pour ces personnes-là que c'est le plus difficile. C'est pour ces personnes-là que payer l'impôt sur le revenu est le plus compliqué. Donc je souhaite que nous concentrions cette baisse sur la première tranche à 14% en baissant significativement le taux, avec derrière un objectif politique. Que le travail continue à payer davantage.
Également concernée par cette baisse, la seconde tranche dont le taux d'imposition est de 30%. Mais dans ce cas, le gain moyen sera plus faible, 180 euros par foyer. Les revenus les plus élevés, au-delà de 72 000 euros, eux, ne sont pas concernés. Tous les détails seront annoncés fin juin, car le gouvernement n'a pas encore décidé comment il va les financer, ces mesures, entre niches fiscales, retraites et économies sur les opérateurs publics. Pour l'instant, ça reste très flou.
Eh oui, question d'autant plus cruciale qu'elles coûteront 17 milliards d'euros en tout, reconnaît Bruno Le Maire, ces mesures, et que ce qui a été avancé pour l'instant est très très loin du compte. Il est question de suppression de niches fiscales, en effet, niche fiscale des entreprises, précise le gouvernement. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, était ce matin l'invité de France Inter. Il commence à s'inquiéter.
La question plus générale, au-delà de cette mesure, c'est est-ce que les trois prochaines années du quinquennat vont être marquées par une augmentation des impôts des entreprises.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Service politique de France Inter, nous continuons à tirer les leçons des annonces de jeudi, de leur mise en musique depuis hier. Et ce constat, Cyril, le climat se brouille quelque peu entre Emmanuel Macron et les patrons.
Les grands patrons font mine de découvrir le « et en même temps macronien ». Pour l'un d'entre eux, tout est ambivalent, on ne sait plus où il va. L'économie, c'est un écosystème qui repose sur la confiance, pas sur l'instabilité. Effectivement, depuis ces annonces jeudi, confortées hier par le Premier ministre, l'exécutif a lancé une opération incitant les entreprises, selon les mots de Gérald Darmanin, à être solidaires. Opération compliquée contre laquelle le patronat est déjà vent debout, on l'entend. Car quel dispositif ciblé, avec quelles conséquences pour les secteurs concernés? On a entendu parler des niches. Devant chaque niche, ironise un pilier de la majorité, il y a un chien qui mord. Les entreprises considèrent avoir joué le jeu. Après le 10 décembre, lorsque le président de la République avait demandé à tous les employeurs qui le pouvaient de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Là, elles sont déroutées, mais ils n'avaient pas le choix, analyse un parlementaire. Il faut trouver de l'argent. Son problème, glisse un autre de ses intimes, c'est que le chef de l'État connaît trop peu de patrons. Il n'en reçoit pas. Électoralement, enfin, c'est dangereux de s'attaquer à eux à quelques semaines des européennes. Je crois qu'il n'a pas compris, s'inquiète un proche, que cet électorat pourrait partir vers Bellamy.
En Conseil des ministres aujourd'hui, le projet de loi énergie-climat et cette promesse inscrite dans la loi neutralité carbone en 2050. Pas d'émission, on n'émettrait pas plus de CO2 dans l'atmosphère que ce que la nature peut en absorber. Un sujet sur lequel la réflexion n'est pas totalement sortie du flou, ce sont les 80 km/h. Pas de suppression franche, mais charge au président de département, en accord avec les préfets, de les aménager au cas par cas. Ils y travaillent. Écoutez Frédéric Bierry, il préside le conseil départemental du Bas-Rhin.
On gère quand même aujourd'hui 3420 km de routes départementales. On sait les routes qui sont accidentogènes. Et je pense qu'on pouvait adapter la vitesse à la réalité de la route. J'ai proposé déjà au préfet sur un certain nombre de routes. Je pense par exemple à la route départementale 1420 entre Molsheim et Schirmeck, où il y a des grandes portions de ligne droite où l'on voit très bien qu'elles puissent repasser à 90 km/h. On en a identifié au moins une petite dizaine de routes qui pourraient repasser sur des portions, en tout cas, à 90 km/h.
Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Bruno.
Allons un cran plus loin avec vous. Le ministre des Collectivités Territoriales, Sébastien Lecornu, dit ce matin que l'assouplissement des 80 km/h peut aller vite maintenant. Alors c'est quoi? C'est une affaire de semaines, de mois, davantage?
Deux mois, Bruno, si on se fie aux dernières déclarations gouvernementales. Et là aussi, on parle du mois de juin. Le sujet sera abordé dans la première semaine de ce mois. Calendrier donné hier lors du séminaire gouvernemental. Début juin, date de la réunion entre des associations d'élus et le Premier ministre sur le sujet plus global de la décentralisation. Des annonces sont prévues ensuite d'ici fin juin. Ce matin, le ministre Sébastien Lecornu précise précise deux choses. L'assouplissement des 80 km/h pourrait se faire d'ici donc la fin de l'année. Il table aussi sur une co-décision entre les préfets et présidents de département pour choisir les tronçons avec des objectifs départementaux pour baisser la mortalité routière. Des présidents de département qui attendent avec impatience, c'est peu de le dire, ce feu vert gouvernemental. Les plus opposés tiennent déjà, on l'a entendu, à disposition de leur préfecture une carte, comme en Dordogne, département le plus concerné par le passage aux 80 km/h d'après le magazine Autoplus. 1200 km du département pourraient ainsi repasser à 90 km/h, des routes notamment avec séparateur central. La Seine-et-Marne, elle vient de son côté de lancer son étude. 100 à 500 km de routes seraient concernées sur les 4300, des tronçons avec une bonne visibilité et non accidentogène.
Et les réponses du gouvernement sont-elles de nature à totalement apaiser le climat en France? Quelques réponses justement demain avec les manifestations du 1er mai. Gouvernement qui redoute des violences de Black Bloc ou de Gilets jaunes parmi les plus radicaux à Paris en particulier. C'est un voyage dans un tout autre monde qui a duré une dizaine de minutes ce matin. La cérémonie d'abdication de l'empereur du Japon.
Konnichiwa mochi. Tenno toshite no tsutome o.
L'empereur Akihito, d'où on vous entendez ici la voix, il a aujourd'hui 85 ans, santé fragile. Il avait annoncé cette abdication il y a 3 ans maintenant. La cérémonie s'est donc tenue ce matin. Bonjour Yann Rousseau.
Bonjour.
Chef du bureau des échos à Tokyo, l'un de nos correspondants dans la capitale japonaise. Alors, cérémonie s'est tenue dans la salle du pain du palais impérial, cérémoniale réglée au quart de millimètre. Yann, on ne parlera pas d'hystérie populaire, hein?
Non, c'était même un moment plutôt glaçant. Alors ça se passait donc dans cette salle du palais. Seul le gouvernement, les membres de la famille royale et puis une poignée d'officiels avaient eu le droit d'être présents. Akihito, l'empereur et son épouse, l'impératrice Michiko, se tenaient debout, bien droit, sur une estrade recouverte d'un tissu blanc. Alors ils ont d'abord écouté un bref discours de remerciement du Premier ministre, Shinzo Abe. Et ensuite, Akihito a pris une dernière fois la parole pour remercier le peuple de lui avoir accordé sa confiance pendant ses 30 années de règne. Et il a dit espérer que la maison impériale continuerait de vivre dans la stabilité. Les chambellans ont ensuite emporté dans le silence les trésors sacrés qui symbolisent son pouvoir, notamment une épée en cuivre et des joyaux en forme de griffes. Ils rapporteront ces trésors demain matin quand Naruhito, le fils d'Akihito, montera officiellement sur le trône du chrysanthème. Alors au total, la cérémonie a effectivement duré 10 minutes à la seconde près et il n'y aura pas eu une once d'émotion et aucun hommage populaire pour l'empereur.
Alors, cérémonie glaçante, Akihito était pourtant réputé très apprécié par la population, Yann.
Oui, à part les conservateurs, il fait l'unanimité. En 30 ans de règne, il a totalement réinventé le rôle de l'empereur. Alors vous savez, d'après la constitution japonaise, il n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un symbole de l'unité de l'État. Et bien, malgré ce cadre très contraignant, il a réussi à trouver sa place. Il se rendait ainsi sur tous les théâtres des catastrophes naturelles pour conforter les victimes. Il y en a beaucoup au Japon. Et à chaque déplacement, il se mettait à genoux à côté du peuple. Il échangeait longuement avec les personnes déplacées. Il leur tenait la main. Il a aussi fait ça avec des personnes handicapées, des malades et même des travailleurs étrangers. Ce sont des gestes et des initiatives quasi révolutionnaires dans un Japon très conservateur. Ses prédécesseurs étaient eux toujours mis en scène comme des demi-dieux très au-dessus de leur peuple. Donc son sourire apaisant va manquer aux Japonais.
Merci beaucoup Yann Rousseau en direct de Tokyo. Akihito, 85 ans. Silvio Berlusconi, lui, en a 82. Il a fait un tour à l'hôpital ce matin, colique néphrétique. Il assure pouvoir participer à une conférence de presse sur les élections européennes cet après-midi, malgré tout. L'actualité sociale est chez Auchan, le groupe de grande distribution. Cette annonce ce matin, un projet de cession de 21 sites qui sont jugés non rentables. 13 supermarchés parmi les 21, dont l'hypermarché de Ville en Seine-Saint-Denis qui compte 188 salariés. Les minutes à venir en question, faut-il noter les médecins comme les hôtels ou les restaurants? Pourquoi de la boue et du sang à la Comédie-Française? Et puis un réseau social pour échanger objets et services, comment ça marche? Voilà les questions des minutes à venir. D'abord celle-ci, comment lutter contre les bouffées de racisme dans certaines universités? À propos de réseaux sociaux, à Metz, à la fac de sociologie, on a découvert récemment l'existence d'un groupe Messenger, la messagerie de Facebook, groupe baptisé Jaja, sur lequel des étudiants se laissaient aller à des remarques et échanges racistes sur des étudiants et profs noirs. Une marche contre le racisme est organisée cet après-midi et ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que chaque année, désormais, il y aurait une journée nationale de sensibilisation au racisme et à l'antisémitisme dans les universités. La date n'est pas encore fixée. Aux côtés de Frédéric Vidal, ce matin, pour cette annonce, il y avait Stéphane Nivet, le délégué général de la LICRA.
Le message de cette journée doit être de revenir à des fondamentaux, de dire que l'université, c'est l'universalisme. Et que si les étudiants peuvent être traversés par les mêmes problématiques que dans l'ensemble de la société, en termes de radicalisation raciste, antisémite ou xénophobe, l'université, c'est un lieu d'émancipation et d'apprentissage de la raison, de l'esprit critique. Donc si dans ce lieu-là, dans des filières de sciences humaines en plus, parce que le cas qu'on a rencontré est en sociologie, si on n'a pas conscience que l'universalisme est le cœur battant de la société, alors où est-ce qu'on en aura conscience? Et puis l'autre dimension, c'est la dimension du numérique. On assiste à un phénomène de libération de la parole raciste, antisémite sur les réseaux sociaux, dont on trouve l'écho maintenant dans la pratique universitaire. Il faut redire aux étudiants que le racisme et l'antisémitisme sont des délits, ne sont pas des opinions, donc il faut remettre aussi des principes dans des usages qui n'en ont pas eu pendant longtemps.
Le délégué général de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme au micro de Sonia Princé. Dans cette histoire, les réseaux sociaux accentuent ou renouvellent un phénomène qui existe déjà, le racisme. Avec le développement du e-commerce et des réseaux, c'est aussi imposé dans beaucoup de secteurs la pratique des appréciations, des classements, des notes sur Airbnb, sur des sites spécialisés pour conseiller des hôtels ou des restaurants. Qu'en est-il chez le docteur? Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
La chronique santé du mardi avec vous Daniel. Cette logique de notation des médecins arrive petit à petit en France. Peut-on évaluer un médecin comme un restaurant de burger?
Ou un chauffeur de taxi? Le soin doit-il être considéré comme un service comme un autre? C'est une pratique déjà répandue aux États-Unis, plus proche de nous, aux Pays-Bas, où c'est l'ensemble du parcours de soins, en fait, qui est jugé. Alors si l'ordre des médecins attend de voir pour se prononcer, les syndicats sont plutôt réticents. Et qu'en est-il des patients? Après tout, ce sont eux qui sont sollicités. Google s'est déjà positionné et Alain-Michel Serretti, président de France Asso Santé, c'est l'organisation de référence pour représenter les patients qui regroupe 72 associations, suit cela de très près.
Google propose la notation des médecins sans aucune précision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un questionnaire structuré, on a simplement des gens qui peuvent laisser un avis. Ça peut être la porte à n'importe quoi. Se défouler sur un médecin qui vous a pas pris dans les temps que vous estimiez ou qui vous a pas donné les médicaments que vous attendiez sur l'ordonnance. Cependant, quand vous commencez à avoir des centaines d'avis qui sont concordants, vous pouvez avoir une tendance réelle. Mais là, on est face au géant Google qui ne demande même pas l'avis aux médecins et aux professionnels de santé s'ils acceptent d'être évalués. Les médecins apprennent tout d'un coup que lorsque on tape leur nom, eh bien, ils se retrouvent avec leur photo et les usagers qui sont appelés à donner un avis sans qu'il y ait aucune certitude sur le fait que l'usager est bien passé par ce médecin, sans avoir de questions construites. On est dans une approche très consumériste qui nous plaît pas du tout parce que le soin n'est pas un service comme les autres.
Alors justement, Daniel, une précision importante, les sites de notation qui s'installent sont présentés comme gratuits, certes, mais ce sont bien des sites à but lucratif. On retrouve à votre micro Alain-Michel Serretti, le président de France Asso Santé, qui représente les patients.
La question qui doit être posée, c'est quel est l'intérêt de celui qui investit dans un site entièrement gratuit? La démocratie sanitaire ne doit pas être instrumentalisée à des fins commerciales. Nous sommes extrêmement attentifs sur ce sujet, qui a forcément derrière l'espoir pour l'industriel d'attirer des usagers pour leur vendre autre chose que le questionnaire qui leur est proposé. C'est souvent un produit d'appel qui cache une autre intention moins louable et moins tournée vers la démocratie en santé.
Alors Daniel Messager, est-ce que d'autres modes de notation pas commerciaux peuvent être envisagés?
Eh bien, cette organisation publique qui est France Asso Santé va justement lancer dans les mois qui viennent un outil d'évaluation, un outil, pas un bulletin de notes, même s'il n'est pas illégitime de vouloir, par des appréciations étayées, améliorer l'ensemble du parcours de soins.
Et l'Institut Montaigne, ce cercle de réflexion libérale, présente donc 10 propositions aujourd'hui pour mieux évaluer les procédures de soins. Autre initiative sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en parle avec notre invité qui est derrière cette initiative. Bonjour Stéphane de Freitas.
Bonjour.
Sur les réseaux sociaux et sur Internet, vous êtes artiste, réalisateur, entrepreneur à fibre sociale. Ça vous va comme portrait?
Parfait.
On vous doit notamment le documentaire À Voix Haute qui suit les participants et les animateurs d'un concours d'éloquence à la fac de Saint-Denis. Et donc, aujourd'hui est lancé Indigo. De quoi s'agit-il?
En fait, Indigo, c'est très simple. C'est parti de 3 statistiques à l'origine. Ouais. C'est que dans le monde, il y a 26 personnes qui détiennent autant de richesses que 3,5 milliards d'individus. C'est-à-dire que 3 continents, si on y concentrait les gens les plus pauvres, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Et une autre statistique aussi, c'est qu'il y a plus de 700 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont près de 8 millions rien qu'en France. Mmh. Et des personnes donc qui n'ont pas accès aux objets, aux services élémentaires du quotidien. Forcément, on entend beaucoup parler de difficultés à finir les fins de mois actuellement. Et en fait, j'ai eu cette idée qui était de se dire qu'il y a une attitude qui permettrait permettrait de réparer des millions d'inégalités si toutefois le défi prenait. Parce que c'est, Indigo, c'est l'histoire d'un défi, la tentative de lever une vague d'entraide à travers un réseau social vraiment social, on va dire. Ou dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, si on est en mesure de vous présenter la personne qui est en... qu'elle ait moyen de vous les donner gratuitement, on peut réparer ces millions d'inégalités. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'à votre tour, si on arrive à déclencher cette vague d'adhésion à ce principe-là tout bête, en fait, on pourra faire en sorte, à votre tour, de vous présenter la personne qui pourra vous rendre le service ou l'objet dont vous avez besoin gratuitement.
Alors, très concrètement, ça marche comment ?
C'est une application, vous allez sur iPhone ou Android, et très simplement, vous avez l'application, on vous donne tout de suite un pochon de Digo, c'est une monnaie. Hein. Sur Indigo, il y a une monnaie qui n'est pas convertible en euros, c'est une monnaie sociale, en réalité, qui permet de faire en sorte que dès que vous avez l'application, vous pouvez tout de suite demander l'objet ou le service que vous avez autour de vous.
Ah oui.
On est en ligne depuis 24 heures, enfin, officiellement depuis 24 heures, il y a déjà des centaines d'annonces, donc vous allez sur l'application.
J'ai besoin d'un cours de français, mettons, j'ai la monnaie pour commencer à le financer, entre guillemets.
Tout de suite, okay. On vous en donne tout de suite, donc d'accord. Tout de suite, vous pouvez avoir accès gratuitement aux objets, aux services, des cours de français, il y en a. J'ai regardé depuis ce matin, il y a des cours d'anglais, de langue, de poterie, de couture. Enfin, c'est assez étonnant ce qui est en train de se passer. Et à l'inverse, quand vous avez plus de Digo, le principe, c'est justement, c'est pour ça qu'on a créé cette monnaie, c'est à votre tour d'offrir des objets ou des services, soit à des individus, soit à des associations, pour aussi leur donner de la force, les soutenir. Aujourd'hui, c'est quand même les associations qui réparent beaucoup d'inégalités pour les réfugiés, pour l'environnement. Donc, on a souhaité aussi faire en sorte qu'Indigo bénéficie à ces acteurs du changement.
Alors, combien de personnes pour l'instant, parce qu'il était en test et il est officiellement généralisé aujourd'hui, combien de personnes et où ?
Alors, en fait, on a testé l'an passé, depuis notre crowdfunding en 2015, il y a eu plus de 20 000 inscrits.
Rassemblement de fonds, pour ceux qui ne sont pas au courant du vocabulaire sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Ouais. Il y a eu 20 000 inscrits, mais en réalité, d'utilisateurs actifs depuis quelques semaines, on a testé avec quelques centaines d'ambassadeurs. Et aujourd'hui, qui est le lancement officiel, on est à peu près à 8 000 utilisateurs aujourd'hui depuis le lancement. Donc, le lancement a eu lieu officiellement depuis aujourd'hui. Mmh. Et l'objectif, c'est tenter d'atteindre les 100 000, parce que si on arrive à atteindre les 100 000 avant l'été, c'est à peu près le moment où le système peut vraiment s'enclencher et devenir soutenable et vertueux.
Et quand vous dites le système s'enclencher, l'idée c'est que ce soit un réseau international, évidemment.
Tout à fait. On a testé notamment à Athènes, puisqu'après la crise en 2015, à l'époque de justement cette collecte de fonds collective qu'on avait fait, on s'est rendu compte que ce pays avait affronté la crise avant les autres et que finalement, il y avait un état d'esprit qui était en demande de trouver des alternatives et aussi la crise des réfugiés a permis de constater Indigo est aussi financé par l'Union européenne parce que lorsque les réfugiés arrivent sur un territoire, ils ne peuvent pas s'insérer dans l'économie traditionnelle, ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas gagner des euros, mais grâce à Indigo, ils ont à peu près plus de 60% les statistiques, plus de 60% ont un artisanat ou un diplôme dans les mains et grâce à Indigo, ils vont pouvoir le mettre à profit, s'intégrer, générer du Digo et avoir accès à des objets ou des services autour d'eux.
Quel lien dans votre histoire ou dans votre esprit entre Indigo et à voix haute ?
Ah, je croyais que vous alliez dire les parkings.
Non.
C'est la même réflexion. Moi, ce que j'allie vraiment ma réflexion d'artiste, aussi bien de réalisateur que de peintre, autour du rapprochement des opposés. Aujourd'hui, on nous a longtemps opposés entre les bleus et les rouges, après la Seconde Guerre mondiale, deux idéaux, le libéralisme, le communisme. Quand il y a une élection aujourd'hui, il fallait longtemps choisir entre les bleus et les rouges dans notre imaginaire. Mais en réalité, on est, à mon sens, une génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité. Et on doit non seulement réapprendre à dialoguer d'une part, si on veut faire société ensemble, c'était le postulat d'Eloquentia. Et on le voit avec le grand débat et l'engouement qu'il y a eu pour cette envie de réapprendre à dialoguer dans ce monde collectif où tout le monde a cette voix au chapitre. Mais l'autre pendant de ça, c'est quand on voit les jeunes dans les banlieues qui dénoncent le système, les bonnets rouges à l'époque en Bretagne, quand on se souvient de Nuit Debout ou d'aujourd'hui, les couches populaires et de plus en plus toutes les franges de la société avec les gilets jaunes, l'enjeu générationnel qui se pose, c'est comment ces statistiques folles de 26 personnes qui détiennent autant que 3,5 milliards d'individus ont créé des systèmes complémentaires. On n'est pas là pour renverser le système, mais des systèmes complémentaires qui permettent tout simplement aux individus d'avoir accès aux objets et aux services élémentaires. Donc Indigo, c'est un défi. Si tous les auditeurs qui nous écoutent téléchargent l'application et postent un objet qu'ils sont prêts à recycler, à offrir autour d'eux, ou du temps qu'ils ont autour d'eux. On arrête d'opposer la fin du mois et la fin du monde, et peut-être qu'on déclenche un système d'entraide rélovutionnaire.
Et voilà. et vos arguments sont déjà très convaincants. En plus, pour ceux à qui ça ne suffirait pas, il y a quelques vedettes qui laissent des objets qu'on peut échanger comme ça sur Indigo.
Alors, effectivement, il y a trois artistes en particulier, Kerry James, Mathieu Chédid, Elisa Azuelos, qui, dès la campagne en 2015, avaient soutenu le projet. Et ces derniers temps, en fait, on a demandé à d'autres artistes, et étonnamment, tout le monde se mobilise pour proposer un objet ou un service. Il y a Mathieu Chédid, donc, qui propose un cours de guitare chez quelqu'un, Kerry James d'inviter quelqu'un sur son plateau, Yarol Poupeau qui offre les chaussures de Johnny Hallyday sur Indigo qui lui avait offert. Donc voilà, on est même nous-mêmes étonnés, dépassés par le soutien, et on est très contents de ça.
On tape Indigo sur un moteur de recherche ou sur son téléphone portable pour télécharger l'application. Merci beaucoup Stéphane de Freitas d'être venu dans le studio. Vous aimez le foot ?
J'adore.
Bon, vous en avez peut-être marre, comme moi, de voir ou d'entendre éternellement parler du Real Madrid, de la Juve, du Bayern de Munich quand arrivent les derniers tours de la Ligue des Champions. Il y a un peu de changement cette année, vous l'aurez peut-être remarqué. À 21h ce soir, la première demi-finale, elle oppose Tottenham, les Anglais, le club du Golioris, à l'Ajax d'Amsterdam. Jérôme Val, vous êtes resté avec nous. L'Ajax, c'est l'équipe que tout le monde ou presque aime cette année en Europe, en fait.
Oui, au lendemain de la qualification face au grand Real Madrid, le journal italien La Gazzetta dello Sport titrait « Ils ont refait le football ». Ils, ce sont ces jeunes joueurs, hein, quasiment tous inconnus du grand public, mais qui font souffler sur l'Europe. En effet, l'Europe du foot, un vent de renouveau. Le capitaine Mathias De Ligt, 19 ans seulement, le défenseur est arrivé au club à l'âge de 9 ans et a déjà montré tout son talent dans cette campagne de Ligue des Champions. Francky De Jong, 21 ans, Donny van de Beek, 22 ans. L'Ajax Amsterdam, que l'on n'avait pas vu à un tel niveau depuis plus de 20 ans, a un coffre à pépites à disposition. Son effectif est aujourd'hui valorisé à 1,5 milliard d'euros, 5 fois son budget. Les plus grands clubs sont sur les rangs pour enrôler ces joueurs qui proposent, c'est vrai, un football séduisant, un football total, comme à la grande époque des De Cruyff ou des Niskens au début des années 70. Et à l'heure où la Coupe d'Europe réfléchit une réforme pour devenir une sorte de ligue fermée pour les plus grands, eh bien cet Ajax-là reste le meilleur contre-argument à cette évolution. Le foot, oui, a besoin plus que jamais de renouvellement et de nouveautés.
Un coup d'envoi à 21h demain, la seconde demi-finale, Barcelone-Liverpool. Allez, du théâtre antique grec à la comédie française. Pour finir, Electre Oreste, deux tragédies de Ripide assemblées par Léo Van Hove, le metteur en scène Ivo Van Hove, le metteur en scène belge qui a triomphé à Avignon il y a 3 ans. Particularité, Stéphane Capron, sur la scène de la comédie française, du sang, de la boue et du rythme.
Un quatuor de percussions donne le ton et le rythme à ce spectacle, littéralement ancré dans la terre. Le sol est recouvert de boue, c'est la terre de l'exil, d'Electre, jeune fille bannie. Sulian Brahim, les cheveux courts, incarne une jeune fille rebelle.
Il y a l'idée du cœur, il y a l'idée de la musique, il y a l'idée de quelque chose de tribal comme ça aussi. Elle est guerrière, elle est masculine, elle est dans la terre. Et c'est pas une princesse, quoi.
Avec son frère, Oreste, ils décident de venger le meurtre de leur père. Assassiné par leur mère, ils commettent le matricide. Sur le plateau, boueux, instable, Ivo Van Hove fait couler beaucoup de sang. Une mise en scène très physique pour Christophe Montenez qui interprète Oreste.
Déjà, on a dû s'adapter au sol, qui est magique parce qu'il y a une sorte de truc. Et même au début, on était « Ah non, c'est froid et tout ». Puis en fait, quand on a le cul dedans un moment, en fait, c'est assez agréable, cette régression. Et il y a un truc, ouais, primaire qui emporte, enfin qui nous aide beaucoup. Ce théâtre antique de la chair, des liquides avec le sang, la boue, c'est très régressif et jouissif.
Ivo Van Hove met la comédie française une nouvelle fois en transe. Il donne à cette tragédie antique une force tellurique d'une grande intensité.
C'est à la comédie française en alternance jusqu'au 3 juillet. Et si vous n'êtes pas aussi, vous ne passez pas par Paris, sachez que le spectacle est diffusé en direct dans 200 cinémas en France depuis la salle Richelieu le jeudi 23 mai à 20h15.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas.
La majeure partie du pays passe son après-midi dans le calme et sous le soleil. En Bretagne, Basse-Normandie et sur l'ouest des Pays de la Loire, le temps est bien lumineux, mais un voile nuageux vient atténuer le bleu du ciel. En Corse, la côte et le proche intérieur sont ensoleillés, mais des nuages poussent sur le relief et peuvent donner quelques gouttes. En revanche, des nuages s'infiltrent sur un large quart nord-est, glissant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, le bassin parisien et le centre-val de Loire. Le temps devient plus variable, mais le soleil arrive à faire de belles apparitions. Une petite averse est tout de même possible sur le Jura et entre les Ardennes, la Lorraine et le Bas-Rhin, le ciel s'éclaircit. Avec ce temps plutôt ensoleillé, les températures continuent leur progression, variant entre 14 et 21 degrés en général, avec des pointes jusqu'à 24 degrés autour de la Méditerranée.